Auditrices, auditeurs, bonjour. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre-pensée. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'histoire, nous allons vous parler d'un film, d'un documentaire plus précisément. Nous allons vous parler aussi de continuité, la continuité du combat de la libre-pensée qui se retrouve à la croisée de ce documentaire. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir les deux réalisateurs du film, Chantal Caglio et Patrick Collin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes les deux réalisateurs d'un documentaire sur Vincent Mouliat. Vincent Mouliat, soldat du 18e régiment d'infanterie pendant la guerre de 1914-1918. Et ce documentaire est intitulé « Fugitif pour l'exemple ». Alors, pour nous, ça nous rappelle en tant que libre-pensée beaucoup de choses parce qu'on se bat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Mais pour revenir sur ce documentaire paru en 2014... On peut dire là aussi que les chemins de l'histoire empruntent parfois des méandres un peu inattendus. Quant à la réalisation, quant à la conception de ce documentaire, et nous allons d'abord, peut-être avec Chantal, nous intéresser, nous attacher à l'histoire propre du documentaire. Chantal, d'où vient ce documentaire? Comment il a émergé? Quelle en est l'origine?
Alors en fait, c'est un documentaire qui vient de loin dans le temps, puisque l'aventure de ce film remonte au début des années 70, où il y avait quatre copains militants du Parti communiste qui ont entendu parler de l'épopée de Vincent Mouliat. Et on pense probablement que c'est grâce aussi à René Curculos qui vivait dans les Landes, puisque Mouliat vivait dans les Landes. Et il faut dire qu'après 68, ce personnage libre qui a osé, lors de la Première Guerre mondiale, braver les pelotons d'exécution de l'armée et fuir sa mise à mort officielle, devenait bien évidemment emblématique d'une certaine liberté. Je pense aussi que Vincent Mouliat, qui est un condamné à mort pour l'exemple, qui a dit « Non, vous n'aurez pas ma mort », et qui a réussi, puisqu'il a vécu 96 ans jusqu'en 1984 sous le mandat de François Mitterrand, ce qui est quand même assez extraordinaire, est un personnage évidemment très marquant de la liberté. Voilà. Alors, le début de l'histoire.
Oui, on voit bien, donc c'est effectivement dans ces années 70 qu'il y a cette première équipe de cinéastes qui vont interroger Mouliat, soit 53 ans effectivement après les faits. Alors, comment ont-ils entendu parler, ça tu l'as un peu abordé, comment ont-ils entendu parler de cet homme-là, de ce fugitif pour l'exemple, et qu'avait-il pour eux de particulier, et qui était aussi cette équipe-là?
Alors, c'est en fait par le Parti communiste qu'ils en ont entendu parler, puisque René Curculos vivait dans les Landes et était militant, eux-mêmes militants au PC, voilà, il y a une information qui a circulé de bouche à oreille. Précisément, évidemment, je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Ce que je peux préciser, c'est que dans la bande des quatre, ils étaient quatre amis. Mmh. Il y en avait deux qui travaillaient dans l'audiovisuel et le cinéma, puisque Michel Rigazzi, qui a filmé l'interview en tant que chef opérateur, travaillait pour le service audiovisuel de la CGT. Mmh. Laurent Caglio, mon ex-mari, était monteur et ingénieur du son pour le cinéma. Il y avait donc aussi Claude Le Dentaire qui mène l'interview et qui était alors journaliste. Et il y avait un quatrième personnage qui est Jacques Pierre. Et ils ont décidé, tous les quatre, avec leurs propres moyens, d'aller interviewer Mouliat qui vivait dans les Landes. Ils ont donc fait plusieurs voyages pour le filmer, ça s'est pas fait en un seul week-end. L'interview a été tournée en 16 mm inversible, qui est une pellicule qui était et négative et positive. Mmh. Donc économique aussi, et Laurent Caglio en a fait le montage de cette interview. Puis Il y a eu quelques contacts qui ont été pris mais qui n'ont pas abouti à une diffusion. Et le temps a passé et chacun est reparti dans sa carrière professionnelle, quoi.
D'accord. Et les bandes, pour en terminer, les bandes se sont retrouvées quelque part chez vous ?
Ouais.
Et c'est à ce moment-là où vous avez contacté, si j'ai bien compris, Patrick Collin, qui est ici en studio avec
vous. Non, il y a eu beaucoup plus de temps qui s'est écoulé, puisque plus tard, comme je travaillais comme monteuse de documentaires, j'ai fait moi-même plusieurs tentatives auprès de différentes chaînes qui n'ont pas abouti non plus. Soit le thème n'était pas d'actualité, soit les chaînes n'avaient pas la case. Ça n'allait jamais.
D'accord.
Et tout ça, ça a duré sur quand même plusieurs années. Et puis après, moi, j'ai fait partie d'une association de documentaristes qui a organisé un festival de documentaires non diffusés par les chaînes. Mmh. J'ai donc proposé immédiatement l'interview de Moulia et une fois de plus, cette interview n'a pas été retenue.
D'accord.
Je dois dire que j'étais un peu déçue et un peu énervée aussi. Et j'ai rangé une fois de plus Vincent Moulia sur une étagère. Mais en fait, le point de départ de l'existence du film qui existe maintenant, ça a été que du fait de cette démarche auprès de cette association, le film a fait partie d'une liste de documentaires qui s'est promenée sur le net. Et il y a eu Denis Roland, qui était président de la Société historique de Soissons, qui a repéré cette interview, puisque lui connaissait le cas Moulia. Mmh. Il en a parlé à Damien Bécard de la mission du Chemin des Dames et c'est Damien Bécard qui m'a contacté et qui a enfin permis qu'un film soit réalisé autour de l'interview de Moulia dans le cadre bien évidemment de l'anniversaire du centenaire de la guerre.
Alors, très bien.
Voilà l'histoire.
Alors, je reviens un petit peu à cette première équipe de cinéastes et c'est là où je vous disais que les méandres de l'histoire... Les chemins de l'histoire prennent des méandres un peu inattendus, parce que dedans, il y avait Claude Le Tanter. Et Claude Le Tanter, qui était journaliste à la revue paysanne La Terre, qui était membre de la section du PCF de Gennevilliers, qui était lui-même un des initiateurs du club cinéaste de Gennevilliers, était aussi membre de la Libre Pensée, et c'est lui qui à la fois fait cette interview en 1970, mais c'est lui aussi qui, il y a plus de 30 ans de cela, avec d'autres militants de la libre pensée, réengage le combat, qui est un vieux combat du mouvement ouvrier et des associations démocratiques, de réhabilitation pour les fusillés pour l'exemple. Et je dirais que c'est ce premier chemin que nous traversons, parce que entre 1914-1918 et même la période après 1914-1918, quand il y a eu toute une campagne de la LDH pour la réhabilitation que nous avons reprise, nous, en 1990, il y a eu cette période de 1970 avec ce documentaire sur Vincent Moulia, où nous retrouvons là aussi les militants de la libre-pensée. Ouais. Et je dirais que c'est quelque part une maturation, une forme de continuité pour rendre la justice, pour rendre justice à des hommes qui n'ont pas été des lâches. Et Vincent Moulia, malgré ses propos et malgré sa façon d'être, effectivement, il s'est sauvé de la mort et qui ont quelque part, il a essayé de dépasser l'horreur de la guerre. C'est ce combat qui, pour nous, est important. Alors, face à ce combat-là de réhabilitation, on a eu l'incompétence de l'exécutif, comme Libre Pensée, depuis des années, parce que l'exécutif a refusé de réhabiliter. Or, nous avons érigé un monument pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, récemment, hein, il y a un mois et demi de cela. Mais pour revenir à ce chemin-là et pour comprendre un petit peu qui était Vincent Moulia, je reviens vers Patrick Collin. Et Patrick Collin, pouvez-vous vous revenir sur justement qui est ce personnage ? Parce que dans le documentaire, il est quand même, il dit qu'il n'a rien fait et pourtant on l'accuse. Alors de quoi l'accuse-t-on et qui était Vincent Moulia ?
Alors, de quoi l'accuse-t-on ? D'abord, en fait, on est dans les mutineries du printemps 1917, suite à l'offensive du Chemin des Dames, où le bataillon de Moulia a été décimé. En fait, on leur a promis, donc ils reviennent à l'arrière, et on leur a promis une semaine de congé. Et en fait, au bout de 3 jours, on leur demande de remonter au front. Donc on est à la Pentecôte, on boit un peu, on s'échauffe... Les mutineries montent un peu partout, donc j'essaie de faire simple, mais on a un contexte historique aussi lié à la révolution russe qui est aussi très prégnant chez les soldats à ce moment-là, un contexte à Paris de grève, donc on est prompt à se révolter. Moulia, donc, de ce qu'il raconte en réalité, suit un peu le flot, puis au bout d'un moment, garde, dit-il, les sacs et les provisions dans le campement. Et donc il dira dans le témoignage, vous le verrez, qu'il est accusé à tort. En réalité, les historiens et les archives, en fait, que les historiens évidemment ont compulsé, il y a eu des livres décrit sur Moulia assez précis. Moi-même, je me suis rendu aux archives de Vincennes pour consulter les archives. Ces archives-là montrent qu'en fait, Moulia était bel et bien impliqué dans la révolte, qu'il a été accusé d'être meneur. Bon, ça, c'est peut-être un peu moins sûr. Les témoignages sont toujours sujets à caution, puisqu'on est quand même en guerre, ce sont des gendarmes. Mais il y a des témoignages, comme on le dit dans le film, des témoignages civils, plusieurs. Il y a des recoupements qui sont faits, effectivement, pour montrer que Moulia est impliqué. Donc lui, il vit une injustice parce que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Voilà, c'est en fait ce dont ces gens sont impliqués, sont accusés. En fait, est quand même assez dérisoire d'une certaine façon. Mais l'état-major a peur, puisqu'on a peur qu'il y ait une révolte. Bon, donc il est accusé. Je passe tous les détails, mais il est accusé avec quatre autres, avec trois, puisque en fait il y en a un qui a été comment évacué, et donc de s'être révolté. Et donc la veille de l'exécution, il arrive à s'enfuir à l'occasion d'un bombardement qu'il y a dans le coin. Donc il avait repéré un petit peu les lieux, donc il s'enfuit, et donc là commence un grand périple dont on va peut-être pas donner tous les détails maintenant.
Non, parce qu'il est sur la ligne de front, il va redescendre jusqu'à quasiment Dax,
Il va redescendre jusqu'à Moliette, jusqu'à Nassiette, son village d'origine, où il va se cacher pendant presque un an, jusqu'à la fin de la guerre. Il est donc décrété comme déserteur, et donc ensuite il va se réfugier en Espagne. Alors Moulia, donc Moulia, c'est un bon soldat. Il a plein de médailles. Il est caporal, il a fait prisonnier des Allemands, et c'est vrai que c'est un bon soldat, c'est un militaire. Voilà, donc lui,
il est bien dans le rang.
Ah, il est complètement conforme.
Mais pourtant, contrairement à, alors on ne sait pas trop si le traumatisme de la guerre pèse encore sur lui quand il est interrogé dans les années 70. Et d'après l'ensemble des archives et du documentaire dont Chantal parlait, que vous avez pu voir et consulter, parce qu'il a certainement des rushs. Néanmoins, on sent quand même que, même si c'était un bon soldat, vous le dites, les archives expliquent très bien qu'il a été un des meneurs. C'est-à-dire que même un bon soldat, il en a eu le ras-le-bol. Il a eu le ras-le-bol de la guerre et de monter au front à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Oui. Et est-ce que vous pensez que, et est-ce qu'on sent que justement que ce traumatisme pèse encore sur Moulia quand il est interrogé? Est-ce que il y a des éléments qu'il démontre de ce qui pèse dans la façon dont il est interrogé?
À l'époque, dans les années, enfin moi je n'ai vu que les, donc j'ai pas été témoin de l'interview, donc au regard des rushs que Chantal avait, enfin du film qui avait été monté à l'époque. On voit bien que, il vit quand même une injustice encore à ce moment-là, même si, la population a fini par l'accepter. Mais oui, c'est un soldat qui a quand même été humilié, même si aussi il a été rétabli relativement dans ses droits. Mais comme on en parlait tout à l'heure, jamais réhabilité, en fait.
Alors, rétabli dans ses droits, on est allé beaucoup plus loin. En off, vous me racontiez que Vincent Moulia a quand même marqué, je dirais, le paysage géographique, parce qu'il a une rue qui lui est dédiée.
Oui, on peut trouver sur effectivement les cartes le chemin Vincent Moulia qui mène à la maison où il a été interviewé d'ailleurs par l'équipe dans les années 70. Chemin Vincent Moulia, c'est donc un personnage qui est très connu dans la région.
On le sent bien dans le documentaire, il a vraiment marqué la population de la région, puisqu'il était considéré comme Moulia le déserteur.
Ben, il avait marqué déjà à l'époque quand il était réfugié, il travaillait la nuit, il se déguisait en femme, il hantait un petit peu le village, voilà. Ouais. Et dans le film, vous verrez en fait qu'il y a des gens qui étaient enfants à l'époque, dont les parents disaient si t'es pas sage, je vais t'amener à Vincent Mouliat.
Le croque-mitaine.
Un petit peu croque-mitaine, oui. Voilà.
Alors, dans le documentaire, il y a une phrase que vous écrivez. Vincent Mouliat a déserté non pas les combats, mais sa mise à mort froidement décidée par la hiérarchie militaire. Je pense que c'est une phrase extrêmement forte. Considérez-vous que votre travail, ce travail documentaire, contribue à réhabiliter l'honneur de Mouliat, d'un homme, Vincent Mouliat, pris dans l'engrenage de la guerre, et quelles en sont les vertus pédagogiques?
Alors, vertu pédagogique, oui, réhabiliter le personnage, oui, c'est un personnage principal qui a des contradictions, qui est vieux quand il est interviewé, donc qui est aussi, on voit qu'il a des trous de mémoire. Sa femme Berthe l'aide à ce moment-là à colmater les trous, je dirais. Mais moi, ce que dans le film qu'on a essayé de faire avec Chantal, on a bien mis en évidence le fait que dans les documentaires, c'était la pédagogie pour nous, elle est plutôt en tant que professionnel du documentaire, au sens où on a un témoignage direct qui dit quelque chose et les archives qui montrent autre chose. Donc on a confronté les deux et à chercher une certaine vérité sur les faits historiques qui sont pas forcément donnés directement par les témoignages directs, quoi.
D'accord. Très bien. Bah écoutez, Chantal Caglio et Patrick Collin, réalisateurs de Fugitif pour l'exemple. Je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie là aussi pour avoir apporté ce témoignage extrêmement important. On peut récupérer et voir et visionner ce documentaire sur la chaîne YouTube de La Libre Pensée. Alors la chaîne YouTube, c'est Libre Pensée France 1, tout attaché, sans accent et tout en minuscule, Libre Pensée France 1. Vous avez la possibilité de voir ce documentaire donc sur notre chaîne YouTube. Je remercie là aussi à la réalisation d'Annie Journeau, à la technique Valentin Bobinet, et je vous retrouve bien évidemment le mois prochain. Auditrice, auditeur, merci.